Que Dieu soit béni. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous avec mon épouse. C'est pas souvent qu'elle m'accompagne, mais là, elle est là. Que Dieu soit béni. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous faire une annonce en accord avec le pasteur Gérard Gault, bien sûr. Tout d'abord, vous remercier pour l'aide que vous apportez, parfois matériellement, en tout cas humainement, pour le travail dans les rues. Encore vendredi soir, nous y étions, jusqu'à samedi matin, puisque nous sommes rentrés à 6 heures du matin, et on aurait pu encore y rester bien plus, parce qu'il y avait toujours du travail à faire. Donc merci pour l'aide de l'église de Sainte-Agne, d'autant plus que la moitié des effectifs viennent de l'église. C'est au moins qu'on puisse dire, sinon plus. Et il y avait cependant un besoin que nous aurions. Nous avons quelques filles sortant de la rue qui ont un enfant. Elles se trouvent dans une situation précaire et il y a un an de cela, j'avais été sollicité par les assistantes sociales de la préfecture de Toulouse pour voir si on pouvait leur venir en aide parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Alors avec l'association, nous l'avons fait, etc. Et ce n'est pas dans ce domaine-là que je ferai un appel. Mais ces filles venant, elles sont venues jusqu'au nombre de 7, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein, 8 même, 8. Voilà. Nous avons un problème, non pas de leur fournir la nourriture, ça nous le faisons, mais c'est de garder les enfants. Parce que nous en profitons pour apporter la parole. Le mardi après-midi, tous les 15 jours. Donc ce n'est pas quelque chose qui est contraignant. Et pendant que nous prions avec elle, nous apportons la parole, nous avons une interprète à chaque fois, il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un qui puisse garder les enfants. Or souvent, c'est l'épouse de notre frère, Jérémy, Stéphanie, qui l'a fait avec l'épouse de Michael également, mais c'est aussi contraignant. Alors nous voudrions savoir s'il y avait possibilité au milieu de vous, tous les 15 jours, ça se faudrait voir après avec notre frère Jérémy, que quelqu'un vienne les garder. Ce n'est pas toujours facile parce que ça bouge, ce sont des enfants et nous vous aimerions avoir une petite aide dans ce domaine-là. Des fois, ma femme est venue également. Il y a eu aussi quelques personnes de Montauban. Ce n'est pas toujours facile. Alors, voyez si Dieu vous le met à cœur. Voilà, je pense que je me suis acquitté, hein, mais en accord avec le frère Gérard Gault. De toute façon, nous n'avons jamais pris une décision ou quoi que ce soit sans en référer à M. Gault et lui demander son avis. S'il me disait non, c'est non. S'il me dit oui, c'est oui. Je crois que c'est logique, d'autant plus que toutes celles que nous voyons et que nous rencontrons ne viennent pas dans votre église. Certaines viennent, mais elles vont aussi dans d'autres églises, ce qui est tout à fait logique et normal. Et de plus, depuis quelques mois, nous avons notre gendre et notre fille à l'église des Minimes, qui eux sont prêts également à aider, à intervenir. Et pour l'instant, j'ai dit non, parce que nous sommes attachés à l'église de Sainte-Anne dans ce travail, quoique nous avons des filles qui habitent tout près des Minimes. Alors il est évident que j'en parlerai avec le pasteur Gérard Gault et mon gendre. Peut-être on divisera un petit peu les effectifs pour le suivre le mieux possible. En tout cas, sachez que vendredi, nous en étions à plus de 1030 filles de la rue que nous avons vues, reçues, aidées, priées, aidées pour les papiers. Je dirais plusieurs, pour dire que plusieurs, le mot serait plus exact de dire beaucoup, ont arrêté. Et là encore, c'est vendredi soir, une expérience qui a été vécue, je crois, en direct avec notre frère Jérémy. Ce que nous voulons, c'est les aider à avoir des papiers. Alors nous leur faisons plusieurs recommandations, apprendre le français, etc. Et nous passions le 14 mai. 14 mai. Et il y en a une qui nous demandait, prier, j'ai pas de papier, j'ai demandé, etc., prier pour que Dieu réponde, parce qu'elles sont toujours dans une perspective très difficile. Si elles n'ont pas de papier, elles ne peuvent pas avoir de travail. Si elles n'ont pas de travail, elles ne peuvent pas avoir de papier. C'est notre principe, notre législation. Je ne la juge pas, je ne la condamne pas, mais c'est un fait. Et alors, elle nous demandait de prier, parce que souvent elle a demandé. Et nous avons prié, mais avec foi. Et on lui a demandé, tu as la foi? Elle m'a dit, oui. Et on a prié. Ça, c'était le 14 mai. Le 27, elle a eu une carte de séjour pour 10 ans. Elle était toute heureuse de le partager. C'est la première chose qu'elle nous a dit. Hein. Avant que nous lui donnions et offrions autre chose, elle voulait partager cette joie, ce qui permet ensuite de trouver du travail, etc. Enfin, que Dieu soit béni. Et je vous assure que beaucoup ont vécu des expériences extraordinaires, y compris de guérison. Et nous avons été confrontés vendredi à des personnes qui ont été opérées, qui étaient des garçons, qui sont devenus des filles, excusez-moi de dire cela, et qui viennent là parce qu'ils ne savent plus où ils en sont, mais ce qu'ils savent, c'est que nous les aimons, Dieu les aime, et ils sont attachés à la parole. Ce qu'ils ont fait est irréversible, c'est certain. Mais est-ce que Dieu les rejette pour autant? Voilà. Et nous n'avons pas les rejetés. Et j'ai été étonné quand nous allions chercher une Yougoslave. Je vois quelqu'un de loin qui ressemble à une dame. Et j'étais prêt également, parce que nous sommes toute l'équipe, bien sûr, à lui demander de venir. Elle me dit, mais ça, c'est mon cousin. Bon, alors on a invité le cousin et on a eu un échange avec cet homme-là étonnant. Étonnant, demandant lui-même la Bible, etc. Moi, mon désir, c'est que Dieu touche leur cœur. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont avec nous, qui viennent et qui, malgré la fatigue, parfois malgré le mauvais temps, sont là. Je bénis le Seigneur pour la présence du pasteur Jérémy Gadrois, comme j'ai eu la présence de Nathanaël Koudougou, de leurs épouses, du pasteur Michael qui veut venir avec nous, et puis des frères et sœurs qui viennent et qui sont au milieu de vous. Sans vous, ce travail ne pourrait pas se faire. C'est vrai. Et les récompenses, ce ne sera pas l'équipe, excusez-moi de dire ça, de Guy Galifot. Les récompenses, ce seront tous ceux qui auront prié. Parce que je sais que vendredi soir, il y a des personnes qui ont dit, vous allez là-bas, mais on va prier pour vous. Et c'est un travail d'équipe. C'est comme dans une église. Ce n'est pas le pasteur qui fait tout, heureusement. Mais le pasteur est là pour apporter ce que Dieu lui demande et pour mettre au travail toute une église. Et il n'y a qu'à voir le résultat. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous et vous dire combien le Seigneur est bon, combien il est grand. Ça a été chanté, mais j'aime le dire, hein, il est grand. Nous avons habité en Haute-Savoie pendant quelque temps. Et de l'appartement où nous étions, un premier étage, d'une chambre, nous pouvions voir le Mont Blanc. Waouh ! Vous imaginez un peu la vue magnifique, bien que c'était loin, puisque nous étions, nous, à Cluse. Mais de l'autre chambre, on ne pouvait plus le voir, parce qu'il y avait une petite montagne, tout près de chez nous, qui nous cachait le Mont Blanc. Bien ça me fait penser aux géants qui se dressent. Suivant de la manière dont vous les regardez, il vous cache Dieu, comme la chambre, la petite montagne qui était là, nous cachait le Mont Blanc. Mais quand je passais dans l'autre chambre, je voyais le Mont Blanc. Eh bien, que nous puissions jamais oublier, Dieu est plus grand. Il est plus grand que tout. Comme notre frère nous l'a rappelé, que Dieu te bénisse, frère. J'aimerais ouvrir la bonne parole du Seigneur dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. L'apôtre Paul écrit à Timothée, qui se trouve responsable pendant un certain temps d'une église, et il lui donne quelques conseils en lui disant qu'il doit venir le visiter, le rencontrer, l'encourager et mettre certaines choses au point avec lui. Et il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Et je crois que nous, il y a quelqu'un qui est prêt à venir. Excusez-moi de dire cela, mais je pense qu'il tarde. Parce que tout est accompli pour qu'il vienne. Mais s'il tarde, pour quelle raison? Parce qu'il a une raison. Nous le verrons dans quelques instants. Je pense qu'il pourrait nous adresser lui-même directement cette phrase « Comment se comporter dans l'Église aujourd'hui ?» Vous allez comprendre que je ne parle pas de l'habillement. Ça n'a rien à voir. Mais d'autre chose de beaucoup plus précieux aux yeux de notre Dieu. En fonction du lieu où je me trouve, ma façon de me conduire est différente. Si j'assiste à des obsèques, que je me trouve au cimetière, ma façon de me conduire va être différente de si je me trouve à un mariage, comme il y en aura un bientôt, ma façon de me conduire sera encore tout à fait différente. Si au cimetière j'aurai une tristesse, parfois malgré l'espérance que nous avons, mais une tristesse du départ de quelqu'un que nous aimons, au mariage, je n'aurai pas cette tristesse. Il y aura une grande joie qui se manifestera. Si je me trouve dans un atelier, dans un garage, j'aurai un comportement différent que si je me trouve, je dirais, dans une église. Là, je parlerai de l'habillement. Je ne vais pas aller au garage avec les vêtements que je porte là. Quoi que ma femme me dirait, tu en es bien capable. Je ne sais pas si toutes les dames disent ça à leurs hommes, mais elle a raison. Parce que ça m'est arrivé d'ouvrir le capot et même en dimanche de pouvoir regarder quand il y avait une panne, de faire quelque chose, voire même de dépanner des gens, dans la mesure où c'était possible. Ce que je veux dire par là, en réalité, ce sont les gens qui se rassemblent, qui font de l'Église ce qu'elle est. Vous avez entendu ce chant, c'est peut-être un peu de mon époque, comme diraient mes petits-enfants. Je ne sais même pas qui l'a chanté, parce que moi, alors, le chanteur. Mais ce chant qui dit « Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. » Vous voyez, vous le connaissez, vous, aussi. Hein? Pourtant, certains ne sont pas de ma génération. Hein? Je ne sais pas qui l'a chanté, ça m'est égal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fonction du climat, il y a des fruits qui sont différents. Nous sommes d'accord? Eh bien, c'est la même chose. Le climat, qui le fait dans une église? C'est la présence des bien-aimés. C'est nous qui faisons le climat spirituel. Alors il ne s'agit pas de venir en disant « c'est le pasteur », mais chacun doit venir dans un climat spirituel et le climat sera tellement extraordinaire. Je n'en parlerai pas, je vais simplement ouvrir une parenthèse. Je rentre du Brésil. 15 jours de réunion. Je ne vous dis pas comment les choses se passent, mais je peux vous garantir que le climat spirituel est certes différent de notre pays, mais moi, je pense que ce qui se passe au Brésil ou en Indonésie, vous savez qu'en Indonésie, qui est le premier pays musulman islamiste au monde, par son nombre, il y a un pasteur pentecôtiste qui a 300 000 membres. Une église, une seule, 300 000 membres. Et il y a un climat qui est dans cette église. Quelque chose d'étonnant. Alors, je crois que Dieu veut et peut faire la même chose avec nous. Pourtant, vous avez chanté « Dieu est grand ». Vous croyez qu'il peut le faire ? Dieu est grand. Est-ce que les Français seraient plus difficiles à atteindre ? Possible. Mais Dieu, est grand. Alors, j'aimerais voir quelques points avec vous. Qu'est-ce que l'Église? Eh bien, en 5 points, j'aimerais le détailler très rapidement. C'est d'abord un lieu pour rencontrer Dieu. Si je viens là, je suis sûr que j'ai une rencontre avec mon Dieu. Vous en pensez? Vous vous souvenez de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant? Et elle monte à la maison de Dieu avec son mari depuis des années. Mais elle vient et elle est là toute seule dans l'endroit. Lorsque le sacrificateur arrive, vous connaissez son nom, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Et il la voit remuer les lèvres, il n'entend aucun son, il pense qu'elle est ivre. Mais elle n'est pas ivre, elle est là dans la maison de Dieu parce qu'elle veut rencontrer Dieu. Est-ce que nous venons avec cette pensée, cette mentalité, quelle que soit la réunion, le culte, la réunion de l'après-midi, la réunion de prière, la réunion d'évangélisation, est-ce que je viens là avec la pensée de rencontrer Dieu? Si je ne viens pas avec cette pensée, je viens pour occuper une place. Ce n'est pas le but. Nous le chantons. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais pourquoi? Si ce n'est que pour rencontrer Dieu. Si c'est pour aller à la maison de l'Éternel, vous savez, quand on fait du tourisme, on peut visiter une église. Ce n'est pas ça. C'est pour rencontrer Dieu. Alléluia. Quel que soit l'édifice, ça n'a rien à voir. J'ai eu l'occasion, et je ne suis pas le seul, alors M. Ollet pourrait en parler 10 000 fois plus que moi, mais d'aller dans des endroits où il n'y avait pas de bâtiment. C'était 4 piquets, nat. N'est-il pas vrai, frère? Comme couverture. Mais on y était là pour rencontrer Dieu. Et le fait est, il y avait la présence de Dieu. C'est pas vrai, frère? Je me souviens, en Nouvelle-Calédonie, on m'avait monté après Pointe-Bout, tout cela, et on me conduisait, puis j'arrive, c'était la campagne, des armes, il n'y avait personne, je n'avais pas vu une case, pas une hutte. Et puis, c'était là, il y avait 4 piquets, ils avaient quand même fait un sol en ciment. Et puis, c'était les feuilles de palmier qui me couvraient. Je me suis dit, mais il va y avoir personne ce soir, on est dans la brousse. Et le frère m'a dit, attends, et le soir, tout le monde est arrivé là. Quelle rencontre avec Dieu. Avec Dieu. Le plus étonné, c'était moi. Je vous assure, c'était moi. Quelle rencontre avec Dieu. On est là pour rencontrer Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur est au milieu de nous? Il est présent par son esprit. Vous imaginez? Il est présent. Il y a des moments où j'aurais presque envie de me taire et de dire, écoutez ce que Dieu veut nous dire. Il est présent. C'est un lieu de rencontre et que deux fois des frères et des sœurs sont venus avec une pensée, un problème dont ils ne parlaient à personne. Et puis là, tout d'un coup, par un don spirituel, par un chant, par la prédication de l'évangile, par la parole d'un frère simplement dans les salutations, Dieu a répondu. Ça a été une rencontre avec Dieu, tout simplement. Attendons-nous à ces choses-là, chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. D'ailleurs, vous le savez, puisque si vous amenez des inconvertis, c'est pour qu'ils rencontrent Dieu. Voilà un premier but de l'Église. Je ne me souviens pas, je crois que c'est un maire d'une petite ville qui parlait avec un prédicateur et il lui disait ceci, « Vos églises, ce sont des vrais transformateurs. » J'ai bien aimé cette image. Alors moi, je n'y connais rien dans l'électricité, c'est le cas de vous dire, je ne suis pas au courant, mais ce que je peux certifier, c'est que dans l'église, eh bien, il y a des transformations. Comme on peut transformer le courant, que Dieu nous aide à voir des gens qui viennent et qui sont transformés. Alléluia. Des bandits qui deviendront des prédicateurs de l'évangile, parce que c'est vrai. Des rabes qui deviendront des princesses. Des personnes qui vivent dans le mensonge, qui annonceront la vérité. Que Dieu soit béni. Un lieu de rencontre avec Dieu. Un deuxième point que j'aimerais souligner à propos de l'Église, c'est un bateau pour la pêche. Vous savez que Jésus est monté souvent en barque. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand moyen de locomotion à l'époque pour traverser la mer. Il est souvent monté en bateau. D'ailleurs, c'est là aussi qu'il a fait des miracles. Et quand je parle d'un bateau pour la pêche, je parle par là d'évangéliser. C'est un moyen, une base d'opération pour évangéliser. Bien sûr, non pas en disant « Seigneur, amène-nous des âmes ». Mais pour dire, Seigneur, envoie-moi auprès de ceux qui ont besoin de toi. Vous trouverez davantage cette expression « me voici » que de dire aux gens « venez ici ». La pêche, elle est différente. Ça peut être 153 gros poissons, vous savez ce que je veux dire, c'est dans la parole. Ou ça peut être de la pêche à la ligne, moi ça m'est égal, pourvu qu'il y ait du poisson. Mais c'est à nous d'aller évangéliser. Et l'évangélisation est importante parce que Dieu l'a ordonné. Et si nous n'obéissons pas à Dieu, ça veut dire que nous désobéissons et désobéir, c'est un péché. Certains se posent la question, mais pourquoi je n'arrive pas à cette communion, cette intimité avec Dieu? Commencez par rendre témoignage autour de vous. C'est Dieu qui l'a ordonné. C'est la première chose. Je n'ai pas la parole facile, et moi non plus. Pourtant, maintenant, vous m'entendez prêcher, mais je vous assure que je n'avais pas la parole facile et je ne suis pas des plus, je dirais, de ceux qui se hasardent le plus. Mais quand Dieu me le demande, je le fais. Parce que je veux lui obéir. La deuxième raison, c'est parce que sans Dieu, les hommes sont perdus. Vous imaginez ce que ça veut dire? Une personne qui est là, qui vit dans le péché, et tout d'un coup elle meurt, c'est terminé. Elle ne peut plus revenir en arrière. Elle ne peut plus revenir pour se réconcilier avec Dieu. Alors que Dieu l'avait mise, peut-être, devant moi, à côté de moi, pour que je lui parle. J'ai vécu ces expériences. Je suis passé à côté de personnes que Dieu voulait sauver, que Dieu m'avait confiées et auxquelles je n'ai pas parlé. Je sais de quoi je parle. Et ça, je ne veux plus le faire. La condition d'une personne. Excusez-moi, je ne voulais pas en reparler, mais excusez-moi. Avec le frère Jérémie, nous avons vu dehors des jeunes femmes, des jeunes filles, leur père est pasteur. Si c'était ma fille, une de mes filles qui soit dans la rue, je serais tellement content que des chrétiens aillent la trouver pour l'enlever. D'ailleurs, cette fois-ci, je n'ai pas vu, vendredi soir, cette femme nigériane, son père et sa mère pasteurs. Et des gens sont venus, ils ont tué ses parents, ils ont mis le feu à l'église, ils ont tué plusieurs autres personnes, ils sont emparés de ses deux enfants, ils ne sont pas ce qu'ils sont devenus, elle a fui, elle est là, elle n'a rien, pas de papier, sur le trottoir. Il m'a dit, pasteur, je ne peux pas oublier Dieu, je pense à mes parents. Je suis sûr qu'elle était tellement heureuse de nous rencontrer. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils sont perdus sans Christ. Et la troisième chose que je voulais signaler à propos de l'évangélisation, c'est que le retour de Jésus est basé sur l'évangélisation du monde. Et tant que nous n'aurons pas fait ce que Dieu attend par son Église, il ne peut pas revenir. Et plus nous tardons dans l'accomplissement de ce qu'il attend de nous, plus il tarde à revenir, parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Mettons-nous à l'œuvre. L'Église, c'est un bateau de pêche. Est-ce que nous sommes prêts à lancer le filet? Le témoignage de ce médecin, jeune, il a été élevé dans la foi. quand il a fait certaines études, il a abandonné le Seigneur. Il s'est laissé prendre par les passions, les pièges, les vices de la vie. Il commençait à boire. Sa mère est morte. Elle lui avait donné une Bible dédicacée. Et puis, cette Bible, il avait besoin d'argent. Il l'a vendue. Il a réussi malgré tout dans ses études. Alors qu'il est exercé dans un hôpital, un jour, on lui amène un mendiant. Mais un homme pauvre, plus exactement, très pauvre. Et puis, il le soigne, mais il savait que c'était terminé. Et l'homme malade lui a dit, vous savez, docteur, je ne vais pas vivre longtemps, mais je suis dans la paix parce que je connais Jésus. Et ce médecin était troublé par le témoignage, la vie de cet homme. Et quand il est mort, cet homme n'avait personne. Il n'avait aucune famille, il n'y avait personne. Donc avec des membres du personnel, le médecin a ouvert son sac, ce qu'il avait, pour voir quels étaient les vêtements. Et il avait une Bible. Et il a pris la Bible, il l'a regardée. C'était la Bible que sa mère lui avait offerte. Et il y avait toujours la dédicace. Et il a dit au personnel, cette Bible, je la récupère. Et il est revenu à Dieu de cette manière-là. C'est son témoignage que j'ai par écrit. Dieu aime les âmes. Il veut les sauver. L'Église, c'est un bateau pour l'évangélisation. Me voici, envoie-moi. Troisième point que j'aimerais relever. Nous connaissons le psaume 133. Ah, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Eh bien, l'Église, c'est aussi un foyer spirituel. Et quand on dit foyer, vous savez d'où ça vient, hein? Un endroit où on fait le feu. Ben, on n'a pas de cheminée, mais il y a le feu du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Dans un foyer, prenez le foyer de Saül. Saül, dans son foyer, il avait une lance. Il y avait David à côté, dans le même foyer, il avait une harpe. Différent. L'Église est un foyer. Nous venons avec quoi? Je ne parle pas des instrumentistes, des musiciens, avec leur flûte, leur guitare ou leur piano, mais nous venons avec quoi quand nous venons à l'Église? Avec une lance ou avec une harpe? Nous venons avec une langue affûtée ou nous venons avec un cœur débordant? C'est un foyer, l'Église. Et il est certain que si je viens dans l'Église avec, je dirais, une lance, avec une langue qui dit du mal, il est certain que Dieu ne peut pas se servir de moi pour sauver des gens. Comment puis-je aimer un inconverti qui vit dans le péché alors que je n'aime pas mon frère qui a été racheté du péché? Je vous ai donné l'exemple de cette fille dont les parents ont été tués par des islamistes au Nigeria. Vous croyez qu'humainement c'est possible de les aimer? Non. Me dites pas oui. Non. Tout à l'heure vous avez chanté un cantique. Je vais te suivre sur le chemin de la croix. Hein, vous l'avez chanté? Hein? Et s'il fallait passer par là? C'est pas possible de l'aimer humainement parlant. Même moi je ne peux pas l'aimer. Mais si l'amour de Dieu me remplit, alors je peux l'aimer au point d'aller lui parler de Jésus et Jésus peut le sauver. Parce que c'est ce qu'il fait. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et que je dois venir dans l'Église avec un cœur débordant d'amour. L'Église, ça doit être un foyer où je suis bien. C'est vrai que nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous la même éducation, la même instruction, la même évolution. Nous sommes parfois de cultures différentes, etc. C'est vrai que nous pouvons avoir, je dirais, plus d'intimité avec certains qu'avec d'autres. Mais cela n'empêche pas que c'est un foyer. Et quand nous chantons parfois ou nous lisons, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là. C'est là. Formidable. Moi, j'aime quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Tous ensemble. Et peut-être nous arrivons parfois à une réunion où nous sommes fatigués, découragés. Et puis, on entend les autres qui sont là, qui chantent de tout leur cœur, qui louent le Seigneur. On entend Dieu nous parler. Ça nous réchauffe, puisque c'est un foyer. Ça nous réchauffe le cœur, ça fait du bien. Après avoir entendu pendant la semaine, ou toute la semaine, des paroles négatives, des paroles de condamnation, des paroles de jugement, on arrive là. Oh, quelle atmosphère! Je comprends, David, je suis dans la joie. Mais il faut que l'Église soit un foyer. Ne jugeons pas, ne critiquons pas, n'abaissons pas. Faisons tout pour aider, élever la personne à la gloire de Jésus. C'est un point tellement important. J'aime cette expression dans l'Évangile. Jésus aimait passer par Béthanie. Vous savez pourquoi ? Il y avait un foyer là-bas où Jésus se sentait bien. C'était Lazare, Marthe et Marie. Chacun était différent. On ne va pas étudier, ce n'est pas mon but dans cette matinée. Chacun était différent. Mais dans ce foyer, il régnait quelque chose qui plaisait à Jésus. Il aimait passer par là. J'oserais poser la question, est-ce que Jésus aime passer par l'église de Sainte-Agne ? Vous en pensez ? J'entends même pas de « Amen ». Alors là, vous m'étonnez. Moi, j'en suis convaincu. Il aime passer par là parce qu'il se passe de belles choses. Qu'en pensez-vous ? Il aime passer. Moi, je crois que Jésus aime passer dans l'église. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Comme dit l'Écriture, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est heureux, tous les membres sont heureux. Hein ? Nous avons prié pour une personne tout à l'heure. Nous avons prié pour une autre personne. Une requête de prière. C'est comme si tous les membres souffraient. Et puis, il va y avoir bientôt des mariages. C'est comme si tout le monde, non pas se marier, mais tout le monde était dans la joie, que Dieu soit béni. Et c'est un foyer. Il y a une chose qui se passe au milieu de nos enfants et petits-enfants. Quand nous avons un problème, nous avons traversé parfois des difficultés, des épreuves, voire même des accidents. La première chose, et j'étais en mission, on m'appelait, j'appelais Colette, j'appelais chacune des filles, et tout de suite, on faisait une chaîne de prières pour que Dieu intervienne immédiatement, parce que c'était urgent et grave. Mais quand nous avons des bénédictions, eh bien, nous les partageons aussi. C'est un foyer. Je ne suis pas le seul à vivre comme ça. Mais c'est tellement bien de le répéter, de le redire, afin que nous sachions que ce que nous vivons dans l'intimité, dans, je dirais, la maison familiale, nous puissions le vivre dans l'Église. D'ailleurs, c'est biblique. Faites part à vos conducteurs spirituels de toutes les bénédictions reçues, etc. Un quatrième point qu'il est important de réaliser aussi dans l'Église de Dieu, l'Église, c'est aussi une école. Vous me direz, monsieur Galifaux, je suis à la retraite. Alors, l'école, il y a longtemps qu'elle est terminée. Non, dans une Église, nous apprenons toujours à connaître Dieu. Vous croyez que même le plus grand des prédicateurs, je ne sais pas lequel il pourrait être, le plus grand des prédicateurs pourrait avoir la prétention de dire « je connais Dieu ». Non, on le connaît un peu. Comme me disait le frère Olé, un petit peu. Vous savez, un jour, je faisais des études sur le Saint-Esprit. C'était préparé, bien sûr, on avait prié comme chacun de mes frères dans le ministère. Et au moment où, après le dernier chant, je me suis levé pour venir à l'estrade, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu vas essayer d'expliquer un océan à partir d'une goutte. Eh bien, Guy Galifaux est petit, mais il est devenu encore plus petit que ce qu'il était. Vous pouvez expliquer tout ce que fait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a créé cette terre. les trois étaient là. L'immensité de ce qui nous entoure. Les 10 milliards de galaxies. Et je pourrais en prendre encore d'autres. Il était là. Il formait toutes ces choses. Mais quand nous nous réunissons dans l'Église, on apprend à le connaître suffisamment pour croire, savoir ce que nous avons besoin de connaître pour aller de l'avant avec lui, marcher avec lui, témoigner de lui. Ah, que Dieu nous aide à connaître sa parole et connaître le Dieu de sa parole pour marcher avec lui. C'est une chose de connaître la parole de Dieu. J'ai connu des chrétiens, des jeunes, des moins jeunes, qui étaient capables de vous réciter des versets par cœur, de vous dire où était écrit tel verset, etc., de vous donner tout ce qu'il fallait. Mais quant à connaître Dieu, c'était une autre chose. Ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à le découvrir, à le connaître. Nous lisons la parole continuellement. Je suis étonné de lire des passages, de découvrir des choses nouvelles. Je pensais que j'avais déjà tout dit sur ces passages. Je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Je ne sais pas quelle est votre impression, vous qui connaissez le Seigneur depuis longtemps. Vous vivez la même chose? Oui. Ah ben alors nous sommes à la même onde, hein, dans la même longueur d'onde. J'ai lu et j'ai retenu, j'ai souligné, j'ai préparé, j'ai médité, j'ai pris des prédications. J'ai dit maintenant, ça y est. Je le relis. Oh, Seigneur me parle d'une autre manière. Et c'est tellement enfantin. Mais c'est lui qui nous parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur de la parole. Et puisqu'il est l'auteur de la parole, il peut m'aider à la comprendre comment Dieu la conçoit. Alors, l'Église, eh bien, c'est un endroit où nous sommes à l'école de Dieu. On apprend toujours. À lui soit toute la gloire. Afin, justement, dans les temps où nous vivons, de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. C'est précis cela. Hein, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura même des doctrines de... Eh oui, parce que les démons connaissent la Bible à leur manière. Mais justement, il veut nous apprendre à connaître sa parole avec l'autorité du Saint-Esprit, afin que nous puissions résister. Avertir, éclairer les gens, et puis... Dans une église où la parole est annoncée, Dieu lève des ouvriers pour la moisson. Des ministères, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient, je dirais, parmi les ministères pastoraux, dont un ministère de Jésus-Christ ou autre, ça fait rien. Dieu lève des ouvriers qui aiment la parole, qui annoncent la parole. Alléluia. Dans une église où il est annoncé la parole. Il ne s'agit pas de trouver des hommes pour en faire des prédicateurs, mais il s'agit de voir Dieu remplir le cœur, susciter des vocations, un amour de Dieu, un amour des âmes, un désir d'approfondir sa parole. Et alors là, l'Église, elle va de l'avant. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et un dernier point que j'aimerais souligner. L'Église, vous le savez, d'autant plus que votre pasteur, Monsieur Gérard Gault l'a dit si souvent, chaque fois que je venais ici, je l'entendais. Il disait, ma maison sera appelée une maison de... Voilà. Et c'est vrai que l'Église, c'est une maison de prière. Et qui dit prière, dit miracle. Qui dit prière, dit miracle. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, au toi qui exauce les prières, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65. Est-ce que nous avons réalisé cela? Bien des personnes ont été touchées parce que Dieu a exaucé leur prière. La Bible nous dit, sa renommée se répandait par l'accomplissement des miracles. Et il n'y a qu'à voir, au début de notre mouvement des assemblées de Dieu, à Pentecôte en France, c'était quoi? Les miracles. Vous allez dans les endroits où le réveil se multiplie. C'est par les miracles. Ça touche les gens. Extraordinaire. Et dans l'Église de Jésus-Christ, nous devons nous attendre à l'accomplissement des prières que nous formulons vers Dieu, ou encore aux miracles que nous demandons à Dieu. D'ailleurs, Jésus s'est mis en colère dans le temple, parce que le temple avait été un petit peu dévié de son origine, en tout cas le parvis du temple, où les gens se rassemblaient pour faire du commerce. C'était pas quelque chose de mauvais en soi-même. Je dirais qu'ils aillent échanger pour ceux qui arrivaient de loin, mais c'était pas dans le temple à faire. Le temple, c'était l'endroit où tous ceux qui venaient voulaient être bien avec Dieu. D'ailleurs, à la dédicace du temple, Salomon avait dit, si un étranger vient dans ce lieu et qu'il se tourne vers toi, qu'il t'invoque, réponds du ciel. Et l'église, c'est un lieu où il y a des prières qui montent, bien sûr, pas que pour nous-mêmes. Ça, c'est encore un autre problème. Très souvent, nous prions pour nous-mêmes, nous faisons du nombrilisme, alors que Dieu nous demande de prier pour ce monde, pour les autorités, de prier pour les gens. Bien sûr, nous le faisons pour nos familles. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui ne prie pas pour sa famille chez soi? Mais non, nous le faisons tous. Mais si je pense aux autres, si je pense, admettons, au clochard que j'ai vu en venant, ou à quelqu'un d'autre, Seigneur, je voudrais que tu le sauves, peu importe le moyen, moi je vais lui donner quelque chose, mais parle-lui. Mais c'est formidable. Est-ce que nous pensons à cela? Dieu veut que nous prions. En revenant la semaine dernière du Brésil, j'étais avec mon gendre qui est pasteur. Nous étions pas loin l'un de l'autre et il y a une hôtesse de l'air avec laquelle nous avons parlé. Puis nous lui avons dit qui nous étions et en parlant, elle m'a dit que son mari était mort dans un accident de voiture au Brésil, ce que je conçois facilement, vu la manière dont on conduit là-bas, etc. Et puis, en parlant, nous a ouvert son cœur, il m'a dit, je me suis remarié et j'ai perdu mon mari d'un cancer, deuxième mari. Oh. Mais on a pu parler. Et moi, je n'ai pas fait attention, mais mon gendre m'a dit, elle est d'origine juive. Et quand elle passait pour nous servir, il y avait dans cette femme un regard à notre égard qui est différent de tous les autres passagers. Elle avait envie de parler. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais lui dire qui pourra lui faire du bien. Et tandis qu'elle me servait avec un grand sourire, j'ai dit, vous savez, madame, vous êtes une perle. M'a regardé, ma femme m'a regardé, elle me dit, comment t'as dit ça, une dame? J'ai dit, oui, vous êtes une perle. Et je lui ai expliqué, vous savez d'où naît la perle dans l'huître? Elle m'a dit, non. J'ai dit, elle naît de la souffrance de l'huître. Et je lui ai donné quelques explications. J'ai dit, vous avez souffert. Et malgré tout, vous croyez en Dieu encore, vous êtes une perle précieuse et Dieu va agir dans votre vie. Elle m'a dit, monsieur, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Elle m'a dit, je vais y penser. Je sais comment elle s'appelle. Elle m'a dit son prénom, Christine. Je lui ai dit, vous me permettez de prier? Oh, elle m'a dit, oui, j'en aurais bien besoin. Eh bien, de temps en temps, je pense à Christine pour que Dieu la sauve. Ah, les prières! Et quand vous priez pour les gens inconvertis, et j'ai entendu vos prières, je suis témoin, j'assistais à vos réunions de prière, quand vous priez, attendez-vous à ce que Dieu a entendu vos prières, vos prières, et qu'il les exauce, qu'il y répond. C'est extraordinaire. Dieu répond aux prières. Et c'est ce qui fait pour nous, je dirais, la raison de nous attacher à lui. Quand je vois l'exaucement des prières, quand je vois les miracles qu'il accomplit, les délivrances et les guérisons, il n'y a rien de tel qui m'humilie. Je ne sais pas comment vous êtes, mais quand je vois Dieu agir, je vais vous donner un exemple. J'ai vu une tumeur qui était là, dans la nuque, comme cela. Et après la prière, elle s'est vidée. Elle s'est vidée. Vous savez ce que j'avais envie de faire ? Me mettre à plat ventre par terre, prier, pleurer devant Dieu. Moi, le miracle, ça me touche plus que tout le reste. À quel moment Jésus s'est-il mis à genoux Pierre s'est-il mis à genoux devant Jésus? Vous savez? À la pêche miraculeuse dans la barque. quand il a vu le miracle, il a dit au Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et il s'est mis à genoux. Devant le miracle de Dieu, je me sens petit, humilié. Je me dis, comment tu peux nous aimer pour répondre de telle manière? Pas un message de repentance qui me touche, c'est de voir la gloire de Dieu. Et je pense à Ésaïe. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Si un autre prophète était venu lui dire, tu sais, tu as besoin que Dieu purifie tes lèvres, qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh, regarde-toi toi-même, hein? Non? Je suis prophète moi aussi. Mais quand il a eu la vision de Dieu, la vision de la gloire de Dieu, retire-toi de moi, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est la vision de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. La vision des miracles, des prodiges, des guérisons, des libérations, des délivrances, ça m'humilie. Ça me rappelle que je ne suis rien, mais qu'il est tout et qu'il est grand et qu'il est présent. Que sommes-nous? Voilà ce qu'est l'Église et la maison de prière. Vous savez que le monde attend que les chrétiens prient. Regardez, quand il y a eu la tempête et qu'un bateau était à la dérive, il y avait un prophète dedans qui dormait, Jonas. Pendant que lui dormait, que faisaient les autres? Ils priaient leur Dieu. Et ils vont le réveiller, mais enfin, hey, tu pries pas ton Dieu, toi aussi? Si les gens peut-être dorment dehors, sont inconvertis, c'est parce que nous ne prions pas pour eux. Vous savez ce qu'attendent les gens? Que l'on prie pour eux et avec eux. J'ai rencontré des personnes dans la rue, partout même, en leur parlant du Seigneur. Ils m'ont dit, mais priez pour moi. Ils attendent que l'on prie pour eux. L'Église, c'est un endroit où on prie. Parce qu'on croit dans le Dieu qui exauce les prières. Nous croyons dans le Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Nous croyons dans le Dieu qui entend. Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Moi, en vieillissant, je commence à avoir des problèmes. Mais lui, il est éternel. Il entend tellement bien. Il entend même jusqu'au soupir. Il entend même la voix de nos larmes. Il entend tellement bien. Oh, que Dieu soit béni. Seigneur, que ce soit une église qui prie. Et une église qui prie, c'est une église où pendant les réunions de prière, il y a beaucoup de monde. Les gens sont là. Souvent, on fait une distinction dans notre mentalité. Vous savez que le français, c'est ça, hein? Alors, j'habite un petit quartier, je suis dans une petite ville, je vais au coin du petit bistrot, excusez-moi l'expression, hein, c'est pas parce que j'y vais, mais c'est pour dire, vous avez un petit café, c'est pas comme ça que parlent les Français? Et quand ils parlent d'une réunion de prière, c'est une petite réunion. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous avons pris une église avec mon épouse, elle peut vous le dire. La première, et je ne voudrais pas dans quel endroit, bien entendu. Il y avait une grande salle, pas loin d'être aussi grande que la vôtre. Et juste derrière, il y avait une petite église, une petite salle, pardon, qui était à peu près de cette dimension. C'était là qu'ils faisaient les réunions de prière. Ils se retrouvaient une dizaine. On dit, mais c'est là que vous faites? Oui, c'est une petite réunion. Oh, quand on me dit ça, moi, alors là, c'est moi qui me mets en colère. Et bien, j'ai dit, à partir de maintenant, les réunions de prière ne se feront pas là, elles se feront dans l'église. Et puis Dieu a permis que d'une dizaine nous étions, et ma femme en est témoin, nous soyons plus de 120 personnes à la réunion de prière. Nous avons pris notre église, toujours dans la même région. On nous a envoyé, ce n'est pas moi qui demandais, moi envoyé. Et nous y sommes allés, réunion de prière. La salle était de cette largeur, pas plus large, même pas aussi longue que la vôtre. Et il y avait un rideau au milieu. Je me demandais pourquoi ce rideau, parce que moi je mets des rideaux pour les baptêmes, mais je ne vois pas. Ils m'ont dit, c'est pour les réunions de prière, pour ne pas tout chauffer, parce que c'est une petite réunion. La même chose. Alors, je veux bien croire que c'est notre mentalité française de dire petit, petit, petit. Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, ben, le rideau, on l'enlève. Et puis maintenant, eh bien, on va faire des réunions de prière pour toute l'Église. Et Dieu nous est témoin dans ces réunions et dans un local 67 mètres carrés. Nous étions aux réunions de prière 160. Les gens étaient assis partout, par terre, dans l'allée. Il y en avait partout. Mais il faut voir ces réunions de prière, ces demi-nuits de prière, ces nuits de prière également que nous avons passées. Comment Dieu s'est manifesté, délivré les gens qui se convertissaient. On avait demandé à Dieu, envoie-nous des gens de la synagogue de Satan. Pour vous, c'est peut-être du grec. Hein. Ça veut dire tout simplement, il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres, envoie-nous-les pour qu'ils soient délivrés. Les trois quarts de l'Église sortaient du spiritisme. Les trois quarts. Il y en a qui prêchent l'évangile maintenant. Dieu soit béni. Mais l'Église priait. Ah, ces moments de prière. J'ai jamais retrouvé des choses semblables comme dans cette Église. Que Dieu nous aide. Vous êtes l'Église. Que les gens viennent. Des gens inconvertis peuvent venir. Vous ne les avez même pas invités. Mais ils entrent. Ils vous entendent prier avec une telle foi, une telle assurance. Ils se disent, certainement Dieu est ici. Et ils peuvent goûter la présence de Dieu instantanément, ils peuvent voir le miracle instantanément. À Dieu soit toute la gloire. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ce qu'est l'Église de Jésus. Elle est formidable, cette Église. C'est un foyer spirituel où Dieu aime siéger au milieu des louanges. Vous imaginez, il aime venir s'asseoir au milieu de nous. C'est pas formidable, ça ? Hein? Des fois je ris tout seul, mais ça m'arrive. C'est pas parce que j'ai perdu la tête, mais je pense à ce que le Seigneur fait. C'est simple, mais il est là au milieu de nous. Il nous sourit, il siège, il entend nos louanges et il se régale, il est bien. Moi, quand je suis invité chez nos enfants, avec ma femme, nos enfants sont plus ou moins loin, eh bien, quand j'arrive, ah, je suis bien, je suis content, je suis heureux. Je suis avec les enfants. Eh bien, c'est la même chose quand je viens à l'église. Je suis avec les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Et il est présent. Et il est là. Elle est belle, l'église de Jésus-Christ, non ? Elle est belle, l'église de Jésus-Christ. Voyez-la comme il la voit. Ressentez-la comme il la ressent. Vivez avec elle, au milieu d'elle, comme lui se plaît au milieu d'elle. Elle n'est pas parfaite. Vous connaissez une église parfaite ? Vous connaissez un pasteur parfait ? Tiens, je croyais que vous étiez parfait à vos yeux. Non, non, surtout pas. Il n'y a pas un homme parfait, pas un juste, pas même un seul. Même le plus grand des prédicateurs n'a pas été parfait. Il n'y a qu'un seul qui y a été et qui l'est et qui le sera éternellement, c'est notre Seigneur Jésus. Il est parfait dans toutes ses voies, dans tous ses plans, dans tout ce que Dieu lui a demandé. Il est parfait dans ses projets, dans ses sentiments. Eh bien, celui qui est parfait, il nous honore de sa présence. Alléluia. Soyons dans la joie, tout simplement, parce qu'il est au milieu de nous. Vous croyez qu'il est au milieu de nous ce matin ? Et vous croyez que parce qu'il est au milieu de nous, il peut agir ? Vous le croyez ? Est-ce que quelqu'un a besoin que Dieu agisse dans son corps ou dans sa vie ce matin ? Oui ? Alors, venez, approchez-vous. Vous avez levé la main, approchez-vous. Y a-t-il encore d'autres personnes ? Alléluia. Venez, venez. Puisque vous avez dit qu'il est au milieu de nous, moi je le crois. Venez, sur une seule rangée là. Alléluia. Oh Seigneur, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux demander aux bien-aimés frères, Monsieur Olé, Jérémy, de venir ? Alléluia. Oh, alléluia. On va louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous vous attendez à ce que le Seigneur fasse du bien, hein ? Amen, il est là, il siège au milieu de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, approchez-vous, simplement. Ah Seigneur, tu es bon mon Seigneur, alléluia. Est-ce que je peux demander aux frères anciens qui prêchent l'évangile de s'approcher aussi ? Voilà, alléluia.
Précieux. Je vais demander à M. Blanc, M. Gaillard, si vous voulez bien vous approcher.
Alléluia.
Je ne veux pas faire un appel, je n'ai oublié Alléluia. Personne, mais est-ce que vous voulez vous approcher, s'il vous plaît ?
Alléluia. Merci. avec nos frères bien-aimés. Nous allons louer le Seigneur. Hein, et prier pour chacun de vous. Vous vous attendez à ce qui se passe quelque chose maintenant. Oui ? Amen. Et l'Église le croit également ? Est-ce que je peux vous demander de vous lever et de lever vos mains vers eux pour que Dieu les bénisse maintenant, comme si la bénédiction que vous avez eue, reçue, vous puissiez la communiquer, la transmettre, alléluia, envers ses bien-aimés, alléluia. Je commence à prier, vous commencez à prier, frère, hein, en posant vos mains. Merci bien, alléluia. Seigneur, tu es au milieu de nous, tu sièges au milieu des louanges, tu as entendu toutes les louanges ce matin qui sont montées vers toi, non seulement individuelles, mais par les cantiques interprétées. Seigneur, ton onction est là, ta présence se manifeste maintenant par des prodiges, des miracles, des guérisons, des libérations, des délivrances, des interventions surnaturelles. Je te loue, Jésus, parce que tu aimes tes bien-aimés, tu leur fais du bien. Maintenant même, Seigneur, réponds à leurs besoins, réponds à leurs supplications, réponds à leurs prières, que leur joie grandissent, deviennent immenses selon ta grandeur à toi. Seigneur, tu fais du bien maintenant. Tu fais des choses étonnantes pour nous, mais tellement simples pour toi. Tu les bénis et que cela serve à la gloire de ton nom, serve à la conversion des âmes, serve à fortifier la foi de tes bien-aimés et serve à les encourager à aller de l'avant et à comprendre que l'Église de Jésus, elle est extraordinaire, elle est bonne. C'est là que Dieu fait des prodiges, c'est là que le diable est vaincu, c'est là qu'il recule, c'est là qu'encore la puissance de Dieu se manifeste. Merci Seigneur pour ton onction, merci pour la vie du Saint-Esprit, merci pour les bien-aimés, merci pour l'Église, merci pour les pasteurs, merci pour les frères anciens et qui honorent leur Dieu par leur témoignage. Merci Seigneur par tous ceux qui d'une manière ou d'une autre te servent. À toi toute la gloire. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de visitation, c'est le temps de passage du Saint-Esprit, c'est le temps de bénédiction. Merci Jésus, merci, alléluia, gloire, gloire, gloire à notre Dieu, louange à celui qui est grand, celui qui est présent, celui qui se manifeste, louange à celui qui aime sa parole, celui qui aime son Église, celui qui vit au milieu de son Église, celui qui vient bientôt chercher son Église, celui qui encore, dont la main n'est pas trop courte pour accomplir toutes sortes de prodiges. Merci Seigneur d'avoir étendu ta main sur nous ce matin, parce que nous avons soif de toi, soif de ta présence, soif de ta personne, soif de vivre avec toi, soif d'être conscient de ta présence dans tous les instants de notre vie, plus particulièrement quand nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia.